Bienvenue dans Moviegoer, l'émission 100% cinéphile, votre mensuel d'actualité cinéma un vendredi sur 4 à 19h et rediffusé le lundi à 13h sur Radio Campus Paris. Avec toute une fine équipe de chroniqueurs, on vous propose de décortiquer le cinéma et plus encore en le connectant avec les autres arts. Quelques recommandations pour votre agenda culturel et surtout une bonne dose de savoir pour cette 10e émission qui clôture la saison. Au programme ce soir, nous avons le bonheur de recevoir Lila Pinel avec son film Shanna, une première réalisation qui a électrisé La Croisette et La Quinzaine des cinéastes il y a quelques semaines autour d'un jeune casting dont l'étoile montante Eva Uhau aux côtés de Noémie Voski et Martin Jova, et ce sera en salle dès mercredi prochain avec Les Films du Losange. Lisa avec Contre-champ clôture ses tribulations dans l'histoire du cinéma anticolonial avec une figure que vous connaissez bien, Med Hondo, deuxième génération de cinéastes africains anticolonialistes. Il y a deux mois, je vous parlais de la peur de l'autre avec un grand A dans les productions des années 60 et 70, j'y reviens, et je vous parle pour finir en beauté cette saison toujours plus gore du courant Exploitation autour de Massacre à la tronçonneuse. Ces autres moqués dans ces films ne sont-ils pas le reflet d'un moi, d'un vous primitif? Deux films queer pour le prix d'un en ce mois de juin. Je vous parle d'un de mes coups de cœur canois, Jim Queen, réalisé avec le studio Bobby Pills, à l'origine de la série Les Cassos, et qui sort aussi mercredi prochain. Tandis qu'Axel, pour clôturer la saison, reviendra sur Bouchra. Il l'a vu et a plein de choses à dire sur ce film d'animation d'Oriane Barki et Myriam Benani. Sachez qu'à la fin, vous saurez tout sur le ciné, mais d'abord, il est l'heure d'un petit débrief de l'année et de vos attentes pour cet été et la rentrée. It's Channel 4 News at 6 o'clock. Et donc on disait juste avant qu'on sortait du Festival de Cannes et qu'on clôturait cette saison, et il est venu le temps de la fin de saison, la fin de saison cinématographique, l'été, une petite pause cinématographique ou non, on va en parler juste après, et puis quelques attentes j'imagine pour vous, pour nous, autour de cette table. Qu'est-ce qui vous intéresse dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui vous a intéressé? Moi je commencerai déjà par vous dire, Marty Suprême, je ne suis pas très original, j'avais adoré découvrir Good Time il y a quelques semaine, et Marty Suprême pour moi c'était vraiment un gros coup de cœur. Après je commence à me dire que c'est un film, je mets des grosses guillemets, facile, parce que ça joue pas mal sur le fait que c'est en constante tension et que ça répond bien à notre génération de malades mentaux. Mais je dirais surtout The Mastermind, parce que j'adore Kelly Rickard, des découvertes, beaucoup de découvertes, l'infomaniaque de Lars von Trier, le cinéma de Ferrara, The King of New York, Driller Killer, du cinéma belge avec Affection qui est produit par Etche Film et qui est encore, je pense, en salle, enfin en tout cas j'espère, et aussi Arrebato d'Ivan Zulueta, qui est, je pense, un des plus beaux films espagnols qui existent et qui ressort bientôt en salle avec Tamasa, on pourra le découvrir au Reflet Médicis. Toujours des réalisateurs un petit peu nouveaux qui pointent le bout de leur nez, avec Graham Swan qui a fait deux films qui ont été distribués en salle par ED Distribution, qui sont sortis au début du mois de juin, et puis toujours des découvertes un petit peu arty pour faire genre que j'aime bien les films un peu complexes et tout, genre Zankmeyer, Les Conspirations du plaisir, ou encore les courts-métrages et les longs-métrages de Tsukamoto. Et donc mes attentes, sans grand étonnement, The Moment avec Charlie XCX, Mother Mary avec les musiques de Charlie XCX et donc évidemment Anna Tawai. J'ai un peu aussi envie de découvrir la filmographie en général de David Lowery qui m'avait un peu chamboulé avec A Ghost Story, et puis en vrac un peu, on peut parler du nouveau Spider-Man, même si j'en avais absolument rien à foutre du dernier, je trouvais ça absolument abject, mais juste pour Tom Holland, on sera là. Mais Andrew Garfield me manque un peu. Le Gregaraki qui sort cet été. Et puis j'ai un peu envie de découvrir les films de Jacques Tati qui ressortent avec Carlotta, et je terminerai par World Horse 9, bel accent anglais, de Martin Magnus avec Tess Boutin et John Malkovich. Donc voilà, pas forcément beaucoup d'attentes, juste Charlie qui continue à faire sa petite vie dans les salles, quoi. Marie, vas-y, dis-moi tout.
Alors moi j'ai kiffé étonnamment Le Diable s'habille en Prada 2 de David Frankel, une ode à la mode et aux working bitches. Incroyable, j'ai étonnamment kiffé, je m'attendais à pire. La Maison des Femmes de Mélissa Godet, un film nécessaire mais que personne n'a vu, et non, ça c'est très triste.
Tu me regardes avec des yeux horribles, on dirait que tu vas me tuer.
Peut-être.
À la fin de l'émission, ok.
Un très beau film que tu iras voir, avec plein d'actrices incroyables, okay. C'était vraiment trop cool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu No Other Choice de Park Chan-wook, incroyable. Plus de tension que dans Marty Suprême, je trouve.
Ah wow.
Ouais, c'est incroyable, enfin, okay. Faut le voir. Et pour finir, j'ai vu mon premier film de l'année, c'était Présence de Steven Soderbergh. Mm-hmm. Très bon film pour commencer l'année, j'ai pleuré dès le mois de janvier. Et en termes d'attente, j'attends avec impatience Evil Dead Burn de Sébastien Vanitschek et Flaubert. Mm. Donc retour du duo mythique après Vermine. Ensuite, la potentielle saison 2 de The Testament, le spin-off de La Servante Écarlate qui a conquis mon cœur. Ensuite, Toy Story 5.
Ah putain, c'est
juste
vrai.
Pour le délire de voir des jouets se battre avec une tablette.
Mais ça a l'air si réactionnaire ce film.
Je crois qu'ils ont changé
le scénario en cours
parce que ça plaisait pas. Ou c'était Shrek, je sais plus. Enfin, Shrek aussi.
Je crois que c'est bientôt. C'est encore décalé.
Je crois que c'est ce mois-ci.
Ah ouais?
Je crois.
Shrek.
Ce mois-ci?
Je crois que ce sera plutôt 2027. Ah bah, Toy Story qui sort dans deux semaines.
Vous voyez, c'est 5 secondes de contenu. J'ai l'impression que c'était Léa Salamé et Marion Cotillard. Non, en 2027.
Ah oui.
Tu l'as dit tellement en mode.
En 2027. Je suis désolée.
Non, t'inquiète, de toute façon, on a mission fake news.
Parce qu'en effet, ouais, ils ont dû tout revoir à cause de l'extrait bande-annonce qu'ils avaient sorti, qui avait été très mal accueilli. Ouais. Et du coup, ils ont tout repris.
En même temps, c'était vraiment de la merde, si je peux me permettre cet extrait.
Les dessins étaient terribles. Ouais.
Bah, surtout que l'histoire est copier-coller de L'âge de glace. Je sais pas si vous avez vu le dernier.
Ah, non.
C'est la fille veut s'émanciper.
Oui, la version de Godard.
Je l'ai pas vu.
T'imagines. Lisa, à ton tour, qu'est-ce que tu as aimé? Attends, je t'ai coupé.
Il y a juste un dernier film, La Patte Patrouille, qui va sortir en août. On l'attend avec impatience.
Mais La Patte Patrouille, non?
Ah, merci Lisa. Comme La Patte Patrouille.
J'irai pas le voir alors. J'irai pas le voir.
Après, Marcelino le
film. C'est des petits chiens policiers.
C'est vrai.
Mais c'est des petits chiens.
Elle m'a convaincu.
C'est des petits chiens. J'aime.
Bon, ouais. Lisa, dis-nous tout cette année. Qu'est-ce que t'as aimé? Qu'est-ce que t'attends?
Moi, si je devais retenir un film depuis début 2026, c'était Le mystérieux regard du flamant rose.
Ah, ouais.
J'ai vraiment adoré ce film que j'ai trouvé d'une beauté folle. Donc, c'est Diego Céspedes, son premier long, je crois.
Je crois que c'est son premier long.
Ouais, c'est ça. Il avait fait un court qui avait été pas mal vu. Et voilà, en dire un peu plus. J'ai regardé un peu rapidement Je ne suis pas d'habitude trop le Festival de Cannes, mais cette année, je me suis dit pourquoi pas. J'ai regardé un peu la liste. Et il y a un film de Lisandro Alonso qui va sortir,
oui.
La Libertad de Voler. Et moi, j'ai adoré Eureka, qui était son dernier film. Pour le coup, ça fait le lien avec ma chronique, parce que c'est un film complètement anticolonial. Ouais, très contemplatif et tout, mais magnifique. Enfin, vraiment à voir en salle et tout. Donc, je serais curieuse de voir ce qu'il fait et même découvrir le reste de son cinéma que j'ai pas encore beaucoup vu. Et il y a aussi, il y a un Bruno Dumont,
Les Roches Rouges.
J'ai trop hâte. Moi, j'adore l'humour de Dumont, petit quinquin. C'est trop ma came. Donc voilà, Les Roches Rouges, j'ai vu la bande-annonce avant de venir et ça a l'air rigolo. Des tout petits enfants, ils sont si petits.
C'est que du casting sauvage. Et Axel, pour clôturer, qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu attends cette année?
Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce début d'année 2026, c'est que ça a été surtout l'année des comebacks. Donc j'ai beaucoup aimé Wedding Nightmare 2 avec le grand retour de Sarah Michelle Gellar, a.k.a. Ma Vie, Mon Oxygène, qui nous a fait un travail impeccable dedans, fidèle à elle-même. Le retour aussi de Park Chan-wook, comme mentionné précédemment, avec No Other Choice, qui était, pareil, un grand banger, plein de tensions, du début à la fin, enfin vraiment incroyable. Le grand retour aussi de Sam Raimi avec Send Help. Et,
Tu l'as aimé?
J'ai beaucoup aimé.
Oui, j'avais vu, t'as fait.
Très camp, très fidèle à lui-même, avec des petits clins d'œil à sa filmographie. Et Rachel McAdams qui pareil, crève l'écran dans un autre registre assez différent de celui auquel elle est habituée. Et enfin, un autre retour tant attendu après avoir disparu dans le précédent volet, mais Scream 7, où Sydney, avec l'incroyable Neve Campbell, est enfin revenu pour chasser Ghostface. Donc voilà, une année très riche en retour et en comeback, plutôt réussie selon moi. Et parmi mes attentes, donc je vais commencer par l'attente la plus soft, qui est L'être aimé de Rodrigo Sordogoyen, qui sera au Festival de Cannes et dont j'avais adoré son précédent film Asbestas, avec énormément de tensions, des sujets d'actualité et très, très bien traités. Mmh. Et je vais finir avec le film que j'attends le plus, mais qui ne laissera certainement pas du grand cinéma, mais après une longue pause, Scary Movie 6.
Ah oui.
Voilà.
Please.
Ouais, j'avoue, j'ai fait un peu le McCarthy, quoi, avec mes films là de. Mais c'est pas grave.
Mais il faut de tout.
Il faut de tout. Il faut de tout. C'est vrai. Alors, je précise quand même parce que donc au moment où on enregistre, L'être aimé n'est pas sorti, mais je pense que au moment où l'émission est diffusée, je crois qu'il est sorti. Donc j'imagine que tu seras en salle au premier jour. J'espère.
Exactement.
Bah, merci à tous, en tout cas, pour ces retours. Et vos attentes de cette fin d'année. Et justement, quel plaisir d'avoir pu échanger lors du Festival de Cannes 2026 avec la réalisatrice de Shana, Lila Pinel, présentée avec les films du Los Angeles à la quinzaine des cinéastes. Histoire de Shana qui traverse les galères du quotidien avec une énergie débordante et le soutien de sa bande de copines. Lorsque sa grand-mère décède, elle hérite d'une bague censée protéger du mauvais œil.
Drama is life with the dull bits cut out.
Bonjour Lila Pinel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio Campus Paris. Je suis très 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 heureux de pouvoir te rencontrer, de discuter de Shana. Ma première question donc, autour de ce film-là, c'est une nouvelle collaboration avec Emmanuel Chaumet. Tu avais déjà travaillé avec eux et de ses films autour de Christian Pry et du Roi David. Moi, je voulais savoir comment pourquoi ce choix et comment ce lien s'est créé avec Ecce. Est-ce que ça a évolué justement par les prismes que tu as eus avec Christian Pry il y a 10 ans et le Roi David il y a 5 ans?
En fait, moi, j'ai aussi fait beaucoup de documentaires à côté et donc j'ai travaillé avec beaucoup de producteurs parce que chaque documentaire que j'ai fait, je l'ai fait avec une nouvelle boîte de prod. Et donc, je pense pouvoir avoir quand même un avis sur un producteur, la façon dont il travaille et savoir si ça va m'aller ou pas. Et quand j'ai rencontré Emmanuel, j'ai su qu'il y avait quelque chose que beaucoup d'autres producteurs n'ont pas. C'est une façon de produire qui est un côté un peu artisanal, mais qui fait que du coup, on est toujours prêt à y aller, quoi. Il n'y a pas... c'est pas enfin, dans l'idée, hein. Ça va pas être les financements qu'on n'a pas, les machins qui vont nous empêcher de tourner. Et ça, c'est quelque chose de très rassurant. Et par ailleurs, ou alors de pas se dire, voilà, si telle aide a refusé ton scénario, lui, il va jamais se dire, c'est parce que ton scénario est merdique, faut le réécrire. Il va se dire, merde, on l'a pas eu. Mais il y a, enfin, vraiment, il y a un rapport, je trouve, à la confiance faite à la réalisatrice, enfin à la scénariste. Qui est vraiment importante pour avancer.
Okay.
Et ça, du coup, effectivement, entre nos collaborations, j'ai aussi travaillé avec d'autres gens dans le documentaire, c'est pas exactement la même chose, mais je me suis rendu compte que c'était très précieux cette façon-là de faire les choses, même si il y a un moment quand même dans la fiction, le long-métrage de fiction, où, parce que Kiss and Cry, ça restait assez hybride, donc on a pu s'arranger sur des trucs, mais là, à la fois, si t'as vraiment pas d'argent, tu peux pas le faire, quoi.
Justement, tu parlais de Kiss and Cry que j'ai redécouvert, que tu as présenté, il y a, si je ne dis pas de bêtises, il y a 9 ans à l'ACID. Tu étais en co-réalisation. Comment justement tu avais travaillé à l'époque sur le film? Pourquoi d'ailleurs cette idée de patinage artistique? Et on le ressent, et pour nos auditeurs, Shana, moi j'ai adoré ce film et j'ai trouvé ça assez génial de reconnaître aussi la patte de Ecce Film, de reconnaître ta patte et de voir à quel point c'est hybride dans le documentaire et dans la fiction. Et est-ce que c'était déjà quelque chose que tu avais envie de mettre en place il y a 10 ans, ces zones poreuses avec Kiss and Cry? Comment tu avais construit l'écriture de ce film?
Kiss and Cry, c'était... Il y avait une étape peut-être en moins que là. C'est-à-dire que c'était... On avait fait un premier... Donc avec ma co-réalisatrice Chloé Mailleux, avec qui je travaillais, on avait fait un premier court-métrage dans un stage de patinage artistique avec des petites filles, où on avait rencontré un entraîneur et des petites filles. Et on trouvait qu'il y avait un truc vraiment génial à faire et à développer sur un projet de long métrage et plutôt en fiction. Donc on avait écrit une histoire à partir de plein de choses, du réel évidemment, et on avait demandé à tout le monde de jouer un peu son propre rôle. C'était des vraies patineuses, un vrai entraîneur et tout ça. Mais on avait écrit plutôt un canevas scénaristique, et ensuite ce qu'on a filmé, c'est comment est-ce que les acteurs s'appropriaient ce canevas en gros. Il n'y avait pas de dialogue écrit, tout était improvisé, quoi. Toutes les scènes étaient improvisées. La différence de là, c'est que là, il y avait un scénario écrit, ouais. Qu'il y a eu cette période d'improvisation autour d'un truc que j'avais écrit, mais ensuite j'ai réécrit en fonction des dialogues et tout ça, des filles, et des mecs. Et ensuite, on a tourné ce scénario sans trop d'improvisation au tournage, en fait.
Et enfin, tu parlais d'improvisation, est-ce que tu as... Est-ce que tu as réitéré cette possibilité d'improvisation avec le tournage de Shanna, ou c'est quelque chose que tu as justement un petit peu délaissé pour avec peut-être un peu moins de liberté, mais comment tu as construit justement dans la continuité de Christian Craig et du Roi David cette part d'improvisation? Est-ce qu'elle elle est là? Est-ce que tu peux nous en parler?
Il y a évidemment une grosse part d'improvisation pendant l'écriture. Et un aller-retour entre les improvisations et le scénario. Et puis au tournage, en fait, il y a eu quand même un peu d'improvisation. Je ne demandais pas aux gens de connaître leur texte sur le bout des doigts parce que parfois, ce n'était pas possible. Mais en tout cas, ils connaissaient tous vraiment le chemin qu'ils devaient prendre et puis ils essayaient de reproduire ça. Après, comme c'est en pellicule, on ne pouvait pas le refaire 40 fois et on ne pouvait pas aller dans tous les sens.
Pourquoi ce choix justement de la pellicule 16 mm?
La pellicule, j'avais déjà fait ce choix avec le moyen métrage avant, avec le Roi David, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose. Parce que je l'entends gueuler, tu vois, Edouard, non?
Ah, mais oui, c'est Edouard.
Oui, oui.
Pour lui savoir.
Le 16 mm, c'était parce que j'avais envie de faire une. Enfin. Il y avait un truc de préparation, c'est-à-dire que je voulais que cette contrainte de devoir avoir un scénario écrit, connaître son texte, je trouvais que c'était important pour le film parce que sinon il y avait tellement d'énergie, tellement que ça pouvait aller très loin et dans tous les sens. Et pour le coup, je n'avais pas le budget pour faire un film qui dure je ne sais pas combien de jours où je pouvais tout filmer, ce qui devrait être aussi génial, je pense, mais ce n'était pas possible.
Ouais.
Donc ça contraint l'écriture en fait et le tournage d'avoir de la pellicule. Et puis après, évidemment, il y avait un truc esthétique où je voulais que l'image soit le plus loin possible d'une image télévisuelle, puisque c'est quand même le seul endroit où on peut voir des jeunes filles d'aujourd'hui, c'est à la télévision, téléréalités, dans des machins. Et en même temps, je voulais porter un autre regard sur elles, donc le 16 mm me permettait ça.
On entendait Eva juste à côté. Comment tu as rencontré Eva? Comment ça s'est fait cette rencontre? C'était il y a 15 ans, si je ne dis pas de bêtises.
Eva, c'était en 2007.
20 ans. Comment vous êtes rencontrés tout simplement? Et est-ce que tu avais fait un premier cours avec elle? Tu as fait le Roi David, là il y a Shanna. Est-ce que tout ça, tu le vois encore une fois comme une continuité et comment tu l'as rencontré surtout? Moi, ça...
Je l'ai rencontré parce qu'en 2007, je tournais un documentaire dans une colonie de vacances où elle était enfant. Et donc, elle faisait partie des enfants que je kiffais vraiment filmer. Enfin, elle avait déjà un truc de jeu génial. Parce que quand on tourne en documentaire, en fait, on cherche quand même des acteurs du réel, quoi. Il faut que ce soit des gens qui aiment se mettre en scène, être mis en scène, on s'en fout de la caméra. Enfin, il y a plein de trucs qui sont importants. Et du coup, elle avait vraiment ce truc-là. Et du coup, je pense qu'après, c'est des gens qui sont des bons acteurs tout court, les bons personnages documentaires. Du coup, elle avait vraiment ça. Et ensuite, je l'ai revue 10 ans plus tard.
Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de l'interview avec Lila Pinel. J'espère que vous entendez un peu en fond de cette interview l'ambiance cannoise qui est très forte pendant cette quinzaine. Et de l'ambiance, on en a sans transition avec Marie Lelouette, notre star de l'humour et de la scène internationale, puisqu'elle est très connue à l'international, je tiens à dire, et qui vous parle en nous faisant rire du pain au maïs, Ryan Gosling, et projet des dernières chances aux côtés de Sandra Hüller. I don't sleep, motherfucker, off
that yak and that Durban. Ah les amis, ça y est, j'ai plus envie de crever. Mes règles sont terminées. Et je suis aussi allée voir Projet Dernière Chance. Et je le clame haut et fort. La vie est tellement fantastique. Je pourrais m'arrêter là, couper mon micro et partir des locaux de la radio. Mais non, je me dois tout de même de vous parler de Projet Dernière Chance de Phil Lord et Christopher Miller. Bon, et ça parle de quoi ce film à la con qui se passe encore dans l'espace ? Ça parle de Sandra Hüller qui envoie Ryan Gosling dans l'espace parce que c'est le seul gadget qui peut sauver la planète Terre. Le soleil va bientôt s'éteindre, oupsie, et la planète va en subir les conséquences. Aïe, 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 aïe.
Mais mon Dieu, nous allons tous mourir, Marie.
Oui, mon pauvre Dorian, on va crever la gueule ouverte. Mais attends, mon beau Dorian, Ryan est là pour toi, pour nous tous. Projet Dernière Chance, c'est un film qui paraît tout bête, une sorte de déjà-vu. Un plat qu'on a décongelé au soleil, lol. Un homme doit sauver la planète. Il va galérer et se remettre un petit peu en question. Dit comme ça, on se fait chier. Pourtant, sur environ 2h40 de film, on ne décroche pas, Dorian. On ne décroche pas. Après avoir bien réfléchi avec ma petite tête, je retiens 2 points de ce film. 1, la dimension profondément humaine du film. Et de 2, notre curiosité à nous, spectateuristes. Ryan Gosling nous offre un jeu incroyable. Ce n'est pas un personnage qu'on voit, c'est juste lui, terrifié d'être seul dans l'espace. Et c'est ça que j'aime. un personnage principal humanisé. Des émotions qui nous font demander « Mais attends, comment moi, Marie, je réagirais si Sandra Hüller m'envoyait dans l'espace ?» Les WC seraient bouchés. Je me chierais dessus. C'est ça qui m'impressionne dans cette histoire. Ryan Gosling n'est pas caché derrière un personnage, c'est juste lui qui nous offre sa perception des choses. Le film était écrit pour lui. Les dialogues lui sont dédiés. C'est une offrande qu'ont fait les réalisateurs, et j'en perds mes mots. Précédemment, je vous parlais de la curiosité, de pourquoi notre curiosité a permis à ce film d'être un banger. De 1, le sujet. C'est l'espace. Pourquoi ce film sur l'espace est mieux que les autres? De 2, l'affiche. Elle est pas ouf. Elle donne pas envie. Voilà. Mais pourtant, la première semaine de démarrage du film, tout le monde s'est mis d'accord pour dire que, ah la vache, le film projet Dernière Chance là, sacré claque. La curiosité l'a emporté, donc les gens se sont rués au ciné. De par un personnage profondément vrai, absolument pas courageux, un homme qui se demande lui-même pourquoi c'est le seul gadget à pouvoir sauver la planète Terre, on devient curieux et curieuse, on se met à sa place. Ce n'est pas une Sigourney Weaver, c'est pas un George Clooney ou un Buzz l'éclair. C'est un homme qui doute de ses capacités. On en a marre des héros, on veut du vrai. En cette période difficile et démotivante, c'est le film dont tout le monde a besoin et je pèse mes mots. Projet Dernière Chance, c'est un film qui abat les frontières et qui détruit la barrière de la langue. Je vous spoile pas, vous comprendrez pourquoi je dis ça si vous allez le voir. Donc aimez-vous, c'est tout. Bisous. Et maintenant, on va écouter la première continuité musicale d'Axel.
Hello tout le monde. Écoutez, aujourd'hui je suis ravi de jouer les iPods, et oui, j'ai bien dit iPod car je suis né avant les années 2000. Mais soyez contents, j'aurais pu dire MP3, mais je me respecte un minimum. Et oui, je sais, je ne fais pas mon âge, et non, tu n'auras pas mon secret de jouvence, Dorian, du moins pas tout de suite.
Fin de merde.
Aujourd'hui, dans ma playlist cinématographique, j'ai voulu aborder comment les hits disco sont utilisés dans les films pour littéralement anesthésier les relations les plus toxiques qu'ils soient. Et tu sais quoi? Je pense qu'il y a un truc à tenir pour de vrai. Je te fais la promesse que si tu prends le pire red flag possible et que tu lances un tube des années 70-80, la paix est assurée avant même le premier refrain. Prends par exemple une bande de copains drag queen qui décident de traverser l'Australie à bord d'une caravane pour un travail, chacun en pleine crise existentielle, un en quête de son genre, l'autre en quête de son fils et le dernier en quête de lui-même. Oui, je parle bien de Priscilla, folle du désert, chef-d'œuvre queer sorti en 1994. Eh bien tu vois, même si le groupe a été au bord de l'explosion plus d'une fois, il a suffi de quelques secondes à C.C. Peniston avec son hit Finale pour que ces trois oiseaux nous offrent une des meilleures prestations drag de l'histoire du cinéma. With brown cocoa skin and curly black hair, just the way he looks at me, that gentle loving stare. Finally, you come along. The way I feel about you, just get me wrong. If you only knew the way I feel about you, I just can't describe it. Oh no no, finally it's happened to me right in front of my face. My feelings can't describe it. Finally it's happened to me right in front of my face, and I just cannot hide it. Finally it's happened to me right in front of my face. My feelings can't describe it. Finally it's happened to me right in front of my face, and I just cannot hide it. It seems so many times he seemed to be the one, but all he ever wanted was to have a little fun. But now you come along and brighten up my world. In my heart I feel it, I'm that special kind of girl.
Radio Campus Paris. Et nous sommes déjà de retour pour la suite de Movie Goer et cette dernière de la saison. Lisa est avec nous ce mois-ci pour Contre-champ. Elle nous parle de quelqu'un de très connu, Medondo, pour sa voix de doublage, Eddie Murphy ou Morgan Freeman, mais il est surtout un pionnier des réalisateurs africains, au même titre qu'Ousmane Sembène.
Contre-champ, une tentative anticoloniale.
En 2024 est sorti un film qui s'appelait Ni chaîne ni maître, un film présenté comme décolonial, à juste titre, mais dont on a aussi dit qu'il était le premier à raconter l'histoire du marronnage. Sauf que le truc, c'est qu'il y a un cinéaste qui a déjà mis en scène la révolte de ses esclaves résistants, et ce cinéaste, c'est Medondou, un réalisateur mauritanien dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Début des années 60, Medondo quitte la Mauritanie et débarque à Marseille. Il est docker sur le port, puis cuisinier. En parallèle, il suit des cours d'art dramatique et découvre le théâtre. Comme Sembène, il va se tourner vers le cinéma pour s'adresser à un public plus large, notamment au public africain. En 1967, il réalise son premier long métrage, Soleil haut. Malgré des demandes d'aide à la télévision française et au ministère de la Culture, il n'obtient pas de financement. Il filme alors avec très peu de moyens, une équipe technique réduite et des amis actrices bénévoles. On y suit un homme noir récemment arrivé en France qui cherche du travail. Mais les expériences racistes se multiplient, on le défigure, on le repousse. L'objectif de Medondo avec ce film, c'est de faire entendre la voix des immigrés africains qui vivent en France et dénoncer le racisme qu'ils subissent au quotidien, en s'attaquant à la fois aux comportements individuels, mais aussi en soulignant le caractère systémique de ce racisme d'État. Plus tard, il va réaliser West Indies, ou les Nègres Marrons de la Liberté, en 1979. Il s'agit d'une adaptation d'une pièce de théâtre du militant dramaturge et poète martiniquais Daniel Boukman. Le film propose une mise en scène, une mise en perspective des processus de domination et d'exploitation aux Antilles sur la longue durée, soit depuis le début du système esclavagiste au XVIIe siècle jusqu'à la mise en place du Bumidom par l'État français en 1963, un organisme chargé d'accompagner l'émigration des habitants des départements d'outre-mer vers la France métropolitaine. Ce film, c'est une vraie pépite, à la fois film didactique et comédie musicale. C'est une critique cinglante des politiques coloniales menées encore aujourd'hui par la France. Et c'est drôle, c'est beau, les chorégraphies sont magnifiques. Je le conseille à tous les fans de Jacques Demy. En 1986, il réalise Saraounia. Il s'agit à nouveau d'une adaptation, celle du roman du Nigérien Mamadou Abdoulaye. C'est l'histoire d'une reine qui s'est battue pour son peuple en tenant tête à l'armée française. Une histoire vraie, relatée dans un film qui montre la violence coloniale française envers les Africains et qui met en scène la résistance collective et panafricaine qui s'organise en réponse à cette attaque. Un film que les acteurs blancs joints dans le film n'appréciaient pas, tu m'étonnes. Medondo est bien conscient que son cinéma dérange, notamment l'État français qui lui fait subir une forme de censure à travers l'absence de financement du CNC, la télé française qui n'achète pas ses films, une diffusion en salle extrêmement réduite. Il faut savoir que le cinéaste n'a jamais gagné d'argent avec ses films. Il survivait grâce à l'argent de ses cachettes de doublage et il investissait l'essentiel de ce qu'il possédait dans la production de ses films. Et quelque part, on peut s'interroger quant au lieu de lutte de Medondo. Il a bien entendu tenu des positions radicales à travers ses discours politiques, mais il est surtout l'un des premiers cinéastes anticoloniaux à investir autant la question formelle comme espace de lutte. Mais le moment où il réalise ses films correspond à une baisse progressive des projets collectifs, à un moment où on pense de moins en moins à faire politiquement du cinéma. Est-ce que la radicalité esthétique comme acte politique n'est pas le seul endroit qu'il était possible d'investir et qu'il ne traduit pas une impossibilité de la lutte politique concrète dans les années 80 ? Quand bien même il était important de s'emparer de cette question, que signifie produire un cinéma formellement politique, formellement anticolonial pour la transformation du monde ?
Bon, en tout cas, on aura d'autres questions à te poser l'année prochaine. Lisa, merci beaucoup pour ce panorama des films de Medondo. Et je précise, parce que c'est important quand même de le mentionner, de ne pas oublier de remercier Sooner, hein, puisque les films de Medondo sont disponibles sur la plateforme. Je pense qu'on peut évidemment foncer les découvrir. Et merci beaucoup, Lisa, pour cette saison d'avoir mis à l'honneur ce cinéma. Toujours plus gore, donc saison 1 touche à sa fin. Je peux déjà vous annoncer avec un bonheur une saison 2 avec encore plus de séances, des gros événements chez Dulac Cinéma et nos autres salles partenaires. Et quel bonheur le 28 mai de vous avoir proposé une séance Affaires Sensibles autour du film Caniba de Verena Paravel et Lucien Castan-Taylor. Il y a deux semaines, nous étions donc très heureux de vous accueillir pour cette soirée spéciale Fait divers avec le cas Issa Issagawa autour du documentaire Caniba de Verena Paravel et Lucien Castan-Taylor. Nous sommes revenus en mai sur ce fait divers et nous avons eu le bonheur de recevoir une personne qui l'a connue personnellement, Nicole Calgaris, autrice de Le Paradis entre les jambes, un livre de 2013 en compagnie de l'animateur également Fabrice Drouel d'Affaires Sensibles sur France Inter. C'était donc l'occasion de parler de la narration des faits divers, toutes les précautions à prendre sur le plan médiatique, mais aussi de ce film si questionnable avec Nicole Calgaris au micro de Toujours Plus Gore.
Alors, il y a deux raisons pour ça. C'est qu'il nous concerne tous, potentiellement. C'est-à-dire que nous, les gens ordinaires, on peut se retrouver embarqués dans une histoire extraordinaire. Et d'ailleurs, et c'est un hasard, il se trouve que l'affaire que vous allez voir aujourd'hui, donc ce Japonais qui s'en est pris à une personne qui était la petite amie d'un ami cher que je connais depuis longtemps, et donc il s'est retrouvé, lui, embarqué dans un fait divers. Ça peut nous arriver tous. C'est pour ça que, c'est, que le fait divers nous concerne tous. Et c'est pour ça qu'on se dit, quand on voit des histoires comme ça, ça pourrait m'arriver. Parce que vous avez remarqué que le fait divers concerne assez peu les stars, les ambassadeurs, les hommes politiques, ça arrive. Mais les gens connus, assez peu. C'est une histoire de gens pas connus, c'est-à-dire vous et moi. Enfin, il y a peut-être quelques nuances. Mais c'est quand même ça. Alors, il y a aussi quelque chose qui doit nous alerter. Et je dis, c'est un peu le fait divers, c'est comme l'alcool ou les aliments gras, c'est pas très bon, c'est ce qu'il y a de plus bon. Mais il faut. En abuser. Voilà. Pourquoi ? Parce que, d'abord, le fait divers, on ne sait pas où le mettre. Vous avez remarqué, fait divers. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément politique, qu'il n'est pas diplomatique, qu'il n'est pas sportif, qu'il n'est pas culturel, il est transversal, donc on ne sait pas où le mettre. Alors, comment on ne sait pas où le mettre ? On dit fait divers. Moi, je préfère parler de la rubrique police-justice en journalisme. Donc, déjà, c'est un petit peu suspect le fait qu'on ne sache pas où le mettre. Ensuite, c'est une information qui est difficile à traiter en news, parce que, et vous l'avez certainement remarqué, quand vous écoutez les informations en radio, ou en télé, ou même en presse écrite, moins en presse écrite, et dans un média audiovisuel, on vous dit, dans l'affaire 2, il y a un supplément d'informations. Oui, mais c'est quoi cette affaire? Qu'est-ce qui s'est passé 3, 4 ans avant? Et donc, on saucissonne des faits divers, de sorte qu'on vide de sens le fait divers, qu'on ne comprend pas ce qu'il nous dit, finalement. C'est la raison pour laquelle une émission comme Affaires Sensibles est intéressante, parce que nous, on traite des faits divers, qui sont essentiellement des cold cases, pas toujours, mais essentiellement. Ça veut dire que quand un fait divers, on connaît son début, son milieu et sa fin, alors il prend vraiment une autre dimension. Mais en news, c'est quelque chose qui, à mon avis, perd un peu le public.
Il y a deux mois, nous revenions sur Herschel Gordon Lewis, qui transforme la vision joviale des rednecks du sud profond des États-Unis vers le sanglant, le gore et l'autre, avec un grand A, comme décadent. Le spectateur ne peut en retirer dans ces années-là, malgré le kitsch que le film était et pouvait faire éprouver 60 ans plus tard, une peur de l'étranger et de l'autre. Elle est intrinsèquement liée à la période de la guerre froide, avec l'après-guerre de Corée et en pleine guerre du Vietnam. Cela, évidemment, n'aide en rien dans cette vision-là de ces films. Ce courant de film va pourtant avoir un important succès, car il engage le spectateur dans une sorte de surplombance de cet autre et de contentement. Cela le rassure, le complète totalement dans sa position, il ne s'interroge pas du tout. Le cinéma donne donc ainsi accès à l'autre, mais rassure le spectateur traditionnel, puisque se dessine un portrait de ces autres particulièrement problématique, entre folie, cannibalisme, meurtre et bestialité. L'exemple le plus concret restera Massacre à la tronçonneuse, dont on a parlé il y a peu de temps. Ce dernier entre parfaitement et totalement dans la case des films qu'on appellera le exploitation, en étant péjoratif dans sa représentation de ses protagonistes, ce qui réussit évidemment économiquement au film, et on le sait encore, le film est très connu. Freud, à côté, parle d'inquiétante étrangeté. C'est un concept qu'il a beaucoup développé dans ses écrits, ce qui fonctionne, et tempère la vision radicale que j'applique à l'exemple de Toby Hooper. En effet, là, c'est un concept freudien un peu paradoxal, où l'autre représente la rupture avec le quotidien. On est un peu face à l'inconnu. Ce fameux sudiste, ou ce fameux redneck, est l'autre, car il semble si éloigné de nous, en marge d'une société civilisée, très loin des normes habituelles de la société moderne ou postmoderne. Toutefois, à certains égards, il rappelle un moi original ou primitif, bien enfoui, entre exotisme de l'étrangeté et curiosité malsaine, mais il rappelle une forme de filiation logique. Il étonne en révulsant, mais en créant les ponts avec soi et notre intime. Pascal Français parle même d'un passé commun aux images du pionnier américain défricheur accoutumé à la vie sauvage et à la violence. Des autres qu'on pourrait considérer rester bloqué dans les limbes du temps, dans d'anciennes époques. Un rappel de notre histoire qui plaît, forcément, mais qui révulse évidemment. Des films donc très importants pour ce qu'ils suscitent d'intime, mais c'est des films qui vont évidemment garder le spectateur à bonne distance, le perturbe le temps d'un film, le secoue un peu, le laisse tranquille finalement. Alors que peut-être faudrait-il un petit peu bouger la formulière habituelle et que le public s'interroge vraiment sur cet autre moqué, mais bien primitif et qui nous ressemble un petit peu finalement. Ne pas laisser constamment le spectateur dans la position de juge, dans cette position de surplombance, juge d'un autre déficient, violent, sauvage, alors que cela ne constitue en rien deux faces non miscibles d'une même pièce. En gros, nous pouvons être les deux. Néanmoins, nous pouvons quand même mentionner Alexandre Aja et son adaptation de La Colline à des yeux. Alors, Colline à des yeux, un film de Wes Craven des années 70 qu'il a donc réadapté un peu plus de 30 ans après, qui dynamite la version de l'époque. En ajoutant du contexte à ces méchants sauvages, je mets des guillemets bien sûr, il permet de rappeler le mal qu'ils ont, mais surtout le pourquoi, et leur donner une vraie texture, une vraie personnalité. Ils sont plus réfléchis que l'on pense. Et leur motivation de violence paraît presque compréhensible, ou du moins explicable. Après ce retour sociopolitique sur ce pan d'histoire de l'horreur, eh bien je vous donne rendez-vous le vendredi 26 juin dès 20h au Reflet Médicis pour faire peau neuve avec une projection rare encore une fois autour du film d'Elias Meridge, Begotten de 1990, avec l'association Cimatex 16 et la copie 16mm du réalisateur, qui n'a pas été projetée depuis plusieurs années, voyager avec nous pendant 1h15 dans ce film aux limbes un petit peu infini. Et je vous donne évidemment rendez-vous à l'année prochaine pour la saison 2 de Toujours Plus Gore. On peut se le dire, on a encore du pain sur la planche, mais il est l'heure de la deuxième interlude musicale de Axel.
Moviegoer sur Radio Campus Paris.
Je sais que vous êtes encore dubitatif, vous vous dites des amis et de la musique, c'est facile pour apaiser les tensions, pas de problème. Passons cette fois-ci à une famille bien toxique, avec une fille embrigadée pour être minimisée par son grand-père rebelle et drogué, décédé et trimballé dans l'arrière d'une camionnette, un fils en pleine crise d'adolescence qui a fait vœu de silence pour être pilote alors qu'il est daltonien, un oncle gay suicidaire, un père obsédé par la gagne et une mère qui tente coûte que coûte de tout maintenir en place. Difficile de faire plus borderline que la famille de Little Miss Sunshine, et pourtant Rick James et son Super Freak vont mettre tout ce petit monde d'accord et leur offrir un moment d'harmonie dont ils avaient terriblement besoin.
Merci beaucoup Axel et à tout à l'heure pour ta dernière interview musicale. Et en ce mois-ci, pas de carte blanche, parce qu'en fait on enregistre ce numéro avant Cannes et malheureusement tout le monde n'a pas pu voir ce petit bijou de drôlerie, de queerness et d'animation, Jim Queen du duo Marco Nguyen et Nicolas Attané.
Salut, moi c'est Jim.
Qu'est-ce qu'il est beau.
Tu veux un tuto taille mannequin. Retrouve tous les conseils dans mon bouquin.
Et donc comme je vous le disais, c'est un film absolument magnifique que j'ai eu l'occasion de découvrir juste avant le Festival de Cannes, un film réalisé par Marco Nguyen et Nicolas Attané. Je tiens déjà à remercier leur distributeur, Joker's Film, un casting absolument incroyable, parce que vous avez découvert les voix de Jérémy Gillet, mais surtout Alex Ramirez et Shirley Soignon, que vous connaissez par exemple pour Shirley Soignon de On Demand Career. Voilà, on s'en souvient bien, mais pas que bien sûr. Sélectionné en séance de minuit, et je n'étais pas à cette séance du coup, mais j'imagine que l'ambiance devait être assez folle, et donc au Festival de Cannes et qui sera présenté au Festival d'Annecy. Mentionner aussi que ce film vient du studio Bobby Pils, donc les Cassos. Donc on revoit vraiment la patte. Je vais revenir un peu sur le film et sur ce que j'ai aimé, mais peut-être vous donner le synopsis, parce que Jim est une icône sexy de la scène gay parisienne. Il voit sa vie basculer lorsqu'il contracte l'hétérose, un étrange virus qui transforme les hommes gays en hétéro. Il voit alors que tout le monde lui tourne le dos, à l'exception de son dernier follower et premier admirateur, Lucien, un jeune homme qui peine à s'assumer, un twink donc. Ensemble, ils partiront en quête d'un mystérieux remède capable de guérir Jim et d'empêcher l'extinction de l'homosexualité. Bon, vous avez un peu le cadre du film. Le film a pris énormément d'années à être écrit. Je tiens à mentionner aussi que, et on le voit dans le film, Ce sont donc deux réalisateurs, mais il y a aussi donc quatre personnes à l'écriture, et ce sont deux hétéros et deux gays, et je trouve que le film le montre extrêmement bien, puisqu'il y a tous les clichés possibles imaginables qu'on peut avoir de nous du côté des hétéros, et il y a tout l'apanage du gay parisien, j'allais dire. Bon, peut-être que le problème avec le film, c'est que ce sera forcément un film qui va plaire beaucoup plus aux gays, ou en tout cas au milieu queer, et aux gens à Paris, parce que il y a quand même, sans spoiler, une scène au Rosa Bonheur, donc on adore le Rosa Bonheur, mais je suis pas sûr que à Lorient, à Tourcoing ou en Corse on connaisse le Rosa Bonheur, mais le film est assez génial puisque vraiment vous allez pouvoir voir des petites surprises et des petits easter eggs. Moi je vous dis de regarder et d'être très attentif aux arrière-plans. Le film est assez dingo, le film est hyper drôle. On s'est tapé des énormes barres dans la salle de projection presse. Moi, je m'attendais à ce que ce soit chiant pour les projections presse. Je me suis dit, ils vont rien comprendre. Et quand ça a commencé par de lavement anal, etc., les gens étaient morts de rire. Donc j'étais en mode, bon, bah parfait, belle ambiance. Non, en vrai, c'était assez génial. Je pense que c'est un des plus beaux films que j'ai vu d'animation depuis plusieurs années, en vrai de vrai. Je trouvais ça assez incroyable. Je vais pas spoiler, évidemment, mais je trouve que bon, le scénario n'est pas non plus la force principale du film. Je pense que c'est surtout tout ce qui est développé autour des personnages. On peut s'attendre à un truc incroyable, mais en fait, je trouve que justement tout ce qui est construit en termes d'humour, tous les symboles qui sont montrés dans le film font que c'est une boule d'énergie constante pendant 1h20. Moi, je trouve que c'est un objet, je déteste utiliser ce terme-là, mais je pense qu'il faut l'utiliser. C'est un film, c'est un objet parfait. Je pense qu'il n'y a pas un bout de gras, comme je dis. Vraiment, c'est tellement incroyable. Donc, je foncez voir le film. Je ne veux pas vous en dire trop parce que je suis pas le meilleur critique en termes de texte quand je ne connais pas le sujet et que j'ai pas forcément envie de vous en dire plus parce que c'est vraiment une découverte. Et pour le coup, attendez-vous juste à des ordinateurs qui sont renommés Asus à la place de Asus, et je vous en dis pas plus. Déjà, retrouvez notre chère Lila Pinel autour de Shana, sa première réalisation seule en long métrage. En effet, Colette Mailleux et elle avaient déjà réalisé un documentaire autour du patinage en 2017, Kiss and Cry, avant que Lila ne propose Le Roi David, déjà avec Eva Huot et Sekou Beyedoukou, couronné du prix Jean Vigo 2021.
Moviegoer sur Radio Campus Paris.
Drama is life with the dull bits cut out.
10 ans plus tard, et là tu te retrouves avec donc, cette incroyable sélection à la quinzaine, de nouveau avec Emmanuel Chomet comme je disais avant. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer, donc dans Shana, il y a vraiment, sans spoiler le film, ce personnage de Eva qui tente malgré tout de continuer à vivre malgré tout ce qui se passe dans sa vie avec cette bague extrêmement présente dans le film. Pourquoi tu as voulu construire aussi cette histoire de quelqu'un qui se débat un peu avec elle-même? Est-ce que, moi je l'ai trouvé absolument incroyable, la salle, on rigolait tous dans la salle et c'était assez incroyable. Est-ce que l'humour c'était quelque chose d'important pour toi dans l'improvisation et donc effectivement est-ce que tu as construit aussi le film pour Eva et dans une dynamique de j'ai envie de montrer aussi quelqu'un qui se débat un peu avec elle-même. Est-ce que c'est quelque chose que tu as conscientisé ou pas?
Disons que c'était tout le récit, enfin, tout ce que j'ai raconté, ça part vraiment du personnage.
Oui.
Et je pense que la première chose, avant qu'il y ait une histoire, avant qu'il y ait quoi que ce soit, même si là je voulais raconter un truc de la transmission et tout ça, mais dans ce personnage, ce que j'aime dans ce personnage, et que je pense qu'il me rappelle peut-être quelqu'un, des gens de ma famille. Enfin, ça m'évoque vraiment un truc très familier et que c'est des gens effectivement qu'on ne voit pas ou dont on ne saisit pas peut-être toute la beauté, je pense, dans la vie et au cinéma. C'est que c'est une façon d'avoir un certain panache, une certaine fantaisie, et que c'est les situations en soi, même si ça se finit mal pour elle, même si machin, la situation en elle-même vaut le coup d'être regardée, quoi. Je sais pas comment dire, elle va s'en sortir, elle va toujours trouver des façons de s'en sortir inventives. Voilà. Et ça, c'est juste une fin en soi de montrer l'inventivité de quelqu'un qui ne se soucie pas de plein de choses, d'injonctions, de trucs comme ça, et qui par ailleurs est quand même, c'est pas non plus la liberté totale, parce qu'elle est quand même dans une relation d'emprise avec un homme et tout. Donc il y a ces deux choses-là très ambivalentes que je trouve, et en même temps que c'est la vie, quoi, c'est comme ça.
Moi, la question aussi que je me posais, c'est le film est jalonné par des moments où on parle par exemple des 10 plaies d'Égypte. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix justement d'avoir ces petites intersections de temps en temps autour de ces mythes-là, notamment les 10 plaies d'Égypte?
En fait, je voulais qu'il y ait donc que le film soit à la fois très réaliste, naturaliste,
sûr, ouais.
avec leurs mots, leurs dialogues et tout, et en même temps qu'il y ait un endroit qui représente un peu l'inconscient de Shana.
D'accord.
Et que c'est quelqu'un qui a grandi dans un milieu, dans une famille, dans, marqué par des images quoi, de l'enfance et tout, qu'on a tous, enfin, dans les familles selon où on a grandi, mais il y a toujours des trucs qui nous marquent dans notre éducation, dans ce qu'on a vécu. Et c'est comme si cette chose-là, quand bien même elle voudrait s'en détacher, c'est présent en elle, quoi. C'est, ça fait partie de ce qu'elle est. Et les 10 plaies d'Égypte, c'est ce qui permet au peuple hébreu de, d'être libéré. Et je voulais que sa libération passe aussi par une traversée de ces 10 plaies dans le film qui vont aussi raconter quelque chose de sa libération à elle.
Et la, le choix de Noémie Wisotsky, comment ça s'est fait aussi, c'est un choix assez incroyable. Je trouve qu'elle est pétille dans le film et je voulais savoir comment ça s'était dessiné. Est-ce que tu as directement pensé à elle? J'ai l'impression que vraiment, elle est dans le film, on ne pourrait pas voir quelqu'un d'autre en fait. C'est obligatoire que ce soit elle. Pourquoi, comment ça s'est fait?
Au début, non. Au début, je voulais pas travailler avec une actrice pour connaître, quoi. Enfin, je veux dire. Enfin, en tout cas, dont le visage est connu.
Bien sûr, ok.
Et du coup, j'avais commencé à travailler avec quelqu'un d'autre qui n'est pas actrice, une réalisatrice que j'adore et qui était géniale et qui avait un truc, qui apportait un truc vraiment fort aussi. Mais à un moment, le rôle a pris trop d'importance et la relation a pris trop d'importance. Et je me suis dit que. Et puis on n'avait pas beaucoup de temps de tournage, enfin, il y avait plein de trucs comme ça et je me suis dit il me faut une actrice confirmée en fait, c'est trop dur là ce dont j'ai besoin. Et Noémie s'est assez vite imposée, ouais. Enfin, en fait si, j'ai tout de suite pensé à elle. En fait il y a très longtemps j'avais pensé à Noémie, je m'étais dit, avant même je pense d'écrire ce film, je me disais ah si elle, c'est une mère pour Eva, pour Shana ça pourrait être Noémie. Et Eva était d'accord, on se disait machin. Et puis après, voilà ce que je te dis, je voulais pas qu'elle soit quelqu'un d'identifié et tout. Et puis quand je suis revenue vers Noémie, c'est vrai qu'elle a... Et à la fois, c'est une actrice bon, super confirmée et tout, et incroyable. Et en même temps, elle est capable de ne pas faire actrice parmi tous ces gens, quoi. Enfin, même si elle, on la reconnaît et tout, mais bon, on accepte que ce visage connu raconte une histoire, enfin, fasse partie de cette histoire... sans se dire ah bah c'est Noémie Wisotsky quoi.
Ma dernière question c'est aussi, tu parlais donc du 16 mm juste avant, et ce que je trouve assez fort dans le film et très assez incroyable parce que j'ai beaucoup beaucoup ri encore une fois et il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre du mélange de genres. Tu travailles à la fois un peu le thriller, presque l'horreur, tu parles de, on parle aussi de cinéma social, ça parle de sexualité énormément. Mais je trouve qu'il y a aussi quelque chose de très important, c'est la mise en scène et la question aussi, c'est tu filmes Paris quand même, je trouve, de façon quelquefois un peu resserrée, pas forcément oppressant, mais on ne reconnaît pas forcément tout de suite Paris. Est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu faire, mettre en place pour aussi retranscrire une émotion particulière de la vie de Shana ou ça s'est fait naturellement?
Paris, tu veux dire?
Ouais.
Bah, ce que je voulais surtout, c'était qu'on traverse Paris. Plein d'endroits de Paris, parce que Paris, c'est... En fait, il y a tout à Paris. Il y a un truc où il y a un énorme mélange de tout. Et parce qu'on m'a souvent posé la question, le film de banlieue, bah, je dis non, ça se passe à Paris, donc c'est pas un film de banlieue.
Non,
enfin,
voilà. C'est vrai,
c'est vrai. Et justement, parce qu'à Paris, il y a ça, puis il y a aussi des quartiers bourgeois, puis il y a machin, puis tu prends le métro et tu arrives de l'un à l'autre en deux secondes, quoi. Et du coup, ça, j'avais envie de montrer ça, sans pour autant être trop démonstratif non plus là-dedans. Donc, et en même temps, dans un plan, il suffit de voir... il y a qui comme passant derrière, la couleur des murs, machin, et on sait tout de suite à peu près, surtout si on est parisien, mais on sait à peu près où on est, quoi.
Merci beaucoup, Nia Pinel. Le film sort en juin avec les films du Losange, et merci,
17 juin.
Le 17 juin précisément, dans toutes les bonnes salles en France, et on remercie évidemment Karine Durance pour cette invitation, et on a très hâte de voir la suite de tes aventures. Merci beaucoup.
Et donc le film est en salle mercredi prochain avec les films du Losange et je remercie Karine Durance, son attachée de presse qui nous a permis ce bel échange. Merci à elle et merci à toutes les équipes du film du Losange. Foncez donc évidemment voir ce magnifique film Shana en salle mercredi prochain. Mais il est déjà l'heure de la dernière interlude musicale de Monsieur Axel.
Comme on dit, jamais 203, donc voici ma dernière carte implacable pour les derniers perplexes. Cette fois-ci, on va boucher le bouchon jusqu'au maximum avec de la bonne toxicité amoureuse entre deux tourtereaux comme on aime. Alors, si en plus ils sont gays dans les années 80, que l'un d'eux trompe l'autre avec une fille et que leur relation réside autour d'un pari morbide comme ce fut le cas dans été 85, vous me direz qu'il faut de toute urgence organiser une séance psy. Eh bien non, que nenni, moi je vous propose une solution toute trouvée, une boîte dans un petit village, des stroboscopes à foison et un vinyle du groupe Movie Music, star de la pub et au diable les traumas, névrose et anxiété, vive l'amour fou.
Une superbe qui plonge dans un... Je me suis changé, j'ai changé de montre et je l'ai loupé. L'avion décolle sur les Champs-Élysées. La tour Eiffel fonce vers la voie. Tu viens vers moi sous ta puce d'esquimau. Laser trop fort change de chaîne aussitôt. L'avion décolle sur les Champs-Élysées. Je me couche pas mal et je commence à rêver. Je tiens les commandes et je peux plus m'arrêter. Star de la pub, vous me rendez salé. Star de la pub, vous me rendez salé. Oh, star de la pub, vous me rendez salé. Et je passe le temps comme sa musique.
Grand merci, cher Axel, pour ces interviews musicales et évidemment résolument estivales. On te retrouve dans quelques instants pour Let's Be Queer et ta pépite de fin de saison. Mais d'ici là, du queer en veux-tu, en voilà. Victor à distance, ce mois-ci, nous parle de la rétrospective à ne pas manquer de ce mois de juin, consacrée au réalisateur Derek Jarman avec la superbe team de Malavida Film.
Nous sommes en juin, en plein mois des fiertés, les corps suintent et les désirs fusent. C'est le moment qu'a choisi le distributeur Malavida pour ressortir en salle plusieurs films de Derek Jarman, qui a déjà fait l'objet d'une rétrospective intégrale au Centre Pompidou en décembre dernier. Et cette fois, ce sont Sébastiané, Jubilee, La Tempête, The Last of England et War Requiem que l'on pourra retrouver notamment au Reflet Médicis à Paris à partir du 17 juin. Derek Jarman, cinéaste britannique, pape d'un art queer contestataire, punk et expérimentateur plastique, reste marquant à bien des égards, notamment son film Blue, la fenêtre onirique qu'il ouvre au crépuscule de sa vie sur son vécu en tant que malade du sida. Mais c'est en 1976 que Jarman éclot comme cinéaste majeur avec un premier long métrage, Sébastiané, co-réalisé avec son acolyte d'alors Paul Humphreys. Les deux londoniens reprennent le martyr de Saint-Sébastien, soldat romain exécuté par ses pères pour son obédience au christianisme. Pour instiller un sentiment de distanciation, voire d'antipléplum, les cinéastes font bien le choix de faire dire à leurs comédiens tous les dialogues en parfait latin, ce qui, bien plus qu'une impression de réalisme, provoque surtout de l'artifice et du grotesque. Parce que bien sûr, il s'agit de faire tout ça dans une lecture queer, où les virils centurions se chamaillent sensuellement et nus au milieu d'une intrigue de jalousie amoureuse, et c'est bien ce trouble homo-érotique qui conduit à la mort du beau Sébastiané. Dès l'ouverture, on est plongé dans une fête romaine décadente et vulgaire qui rappelle le Satyricon de Fellini et où l'homosexualité est érigée en règle. Alors qu'il est le favori de l'empereur Dioclétien, la dissidence de Sébastiané le condamne à l'exil dans une garnison de quelques hommes errant dans le désert, un paysage où sont subverties les icônes à la manière de Pasolini dans l'Évangile selon saint Matthieu. Et si je cite ces deux cinéastes italiens, ce n'est pas que pour name drop le cinéma de Derek Jarman et référentiel de ses contemporains en particulier. La part provocatrice du projet est tout à fait assumée, les corps masculins y sont filmés avec un œil pour ainsi dire lubrique, et la sexualité y est évoquée avec une grande crudité. Face à l'Angleterre conservatrice des années 70, le romain qui exaspère et fascine les figures d'autorité fait allégorie de l'homosexuel. Si les représentants de la norme autour de lui en viennent à tuer Sébastiané, c'est parce qu'ils n'en peuvent plus de le désirer. Le corps de Sébastiané, qui est celui de l'acteur italien Leonardo Treviglio, est attaché, flagellé, contorsionné dans les positions les plus lascives jusqu'à ce que sa chair soit pénétrée des flèches d'arc bandées, tendues de ses compagnons. Dans cette dernière séquence, la chair est littéralement traversée et c'est le meilleur moyen de manifester son existence, sa matérialité. Chez Jarman, la mort est un acte sexuel comme un autre et l'érotisme, lui, advient du moindre détail. Cette fièvre de l'obsession qui transit un groupe aura inspiré de nombreux cinéastes après lui. Je pense à Bertrand Mandico dans Ses garçons sauvages, mais aussi au chilien Sébastien Silva qui, avec Rotting in the Sun, pastiche dès son affiche l'ambiance phallique mythologique de Sébastiané, notamment une scène mémorable d'érection sous un drap. Mais je ne vous en dis pas plus, car le film est à découvrir ou redécouvrir dès le 17 juin en salle, aux côtés de quatre autres films de Derek Jarman grâce à Malavida, leur distributeur.
Moviegoer sur Radio Campus Paris.
Et donc vous aurez le bonheur de voir ou revoir ces 5 films au Reflet Médicis et plusieurs séances spéciales, toutes les informations sur le site du Lac Cinéma. L'émission de juin en plein mois des fiertés vous poussera, nous l'espérons, à découvrir un autre film absolument génial, Bouchra, Dorian Barki et Meryem Benani, entre animation, filiation mère-fille, lesbianisme et accomplissement personnel. Le film est en salle depuis 2 semaines et c'est Axel qui nous en parle dans Let's Be Queer.
Mais c'est contre nature.
Et oui, c'est Let's Be Queer, Be Queer.
Rebonjour Dorian, dites donc, toi et moi ce soir ça ne s'arrête pas.
En effet, j'ai l'impression.
Ça y est, c'est la dernière de l'année, je vais passer un terrible été loin de toi, tu sais.
Putain de merde, c'est tellement long.
Bon, trêve de sentiments, il me reste une ultime propagande de cinéma queer à faire et elle n'est pas des moindres. L'année 2025-2026 aura été riche en cinéma LGBT et en particulier dans l'animation avec justement Jim Quinn, dont tu as parlé, de Marco Nguyen et Nicolas Attan, mais aussi pour nos amis lesbiennes avec la petite dernière de Afsia Herzi. Eh bien, figure-toi que l'œuvre dont je vais vous parler mixe les deux, de quoi placer la barre très haute avec de nombreuses attentes. Et spoiler alerte, c'est une mission 100% réussie. Allez, j'abrège le suspense, il s'agit du film Bouchra, réalisé par Oriane Barki et Meryem Benani. L'intrigue nous fait naviguer entre un New York et Marrakech cyberpunk où l'apparence des humains a été remplacée par celle des animaux. On y suit donc Bouchra, une louve de 35 ans, cinéaste au style punk, qui bloque sur son projet de long métrage autobiographique. La cause, son homosexualité. En effet, après avoir quitté son Maroc natal pour les États-Unis il y a de cela un moment déjà, Bouchra a fait son coming out auprès de ses parents via une lettre envoyée 9 ans plus tôt. Depuis, le sujet n'a presque jamais été abordé. Les raisons ? La culture, la pudeur, le tabou, la gêne ou encore la distance. Bouchra n'en démord pas. Cette fois-ci, elle veut percer l'abcès, en particulier avec sa mère. C'est alors que les souvenirs remontent, les voyages s'enchaînent et l'amour revient. Le reste, c'est à vous de le découvrir en salle, car c'est dans les découvertes que propose le film que réside sa beauté. Qu'elle soit visuelle, avec cette 3D obscure, mais tendre à la fois, ce monde si éloigné du nôtre et finalement si proche, mais aussi auditive, avec ses musiques marocaines, un coup traditionnel, un coup moderne, ou encore spirituelle à travers les rencontres et les échanges de Bouchra, que ce soit avec ses amis, les membres de sa famille, son entourage ou encore ses amantes. Un film qui m'a profondément touché, de par sa sincérité et sa pudeur. Une autofiction qui joue avec les frontières du documentaire. L'animation qui est divine semble jouer aussi le rôle de frontière. Comme si via cette épaisseur, via ce filtre, il était plus facile de se confier, de se livrer. Ici, personne n'a raison ou tort. On dissèque la complexité de l'homme, ou devrais-je dire de la femme. Ses émotions, son conditionnement culturel et social, ses peurs, ses angoisses. Mais aussi la complexité des relations familiales. Familiale. On ne choisit pas sa famille, certes, mais on choisit d'y rester ou non. Tout cela dans le but de comprendre, simplement de comprendre pour pouvoir avancer. Et si après tout Marc avait raison, tout le monde est lesbienne. Bouchra, c'est en salle depuis le 3 juin, alors foncez-y.
Merci à Axel et à tous et à toutes de nous avoir écoutés pour ce 10e épisode. On se retrouve toutes les 4 semaines le vendredi à 19h et en rediffusion le lundi à 13h pour Movie Goer, l'émission qui décrypte le cinéma et plus encore sous toutes ses coutures. Mais c'était la dernière de la saison, alors rendez-vous pour 2 rediffusions cet été. Merci Philippe Fischer, chargé d'antenne, merci Léa, notre réalisatrice. Merci à notre invitée Lila Pinel, venue pour nous parler de Shana en salle dès mercredi prochain, avec les films du Losange après son passage remarqué à la quinzaine des cinéastes. Merci à toute l'équipe des chroniqueurs et chroniqueuses, Lisa Templereau, Axel Filograna, Victor Lepesant, moi-même Marie Lelouette et notre illustre présentateur Dorian Périgois. En attendant le retour de Movie Goer le vendredi 11 juillet, n'oubliez pas, l'art ne se vit pas seulement. Il s'écoute.
Et je mentionne quand même, je les remercie, Esther Vasseur, Anna Guyot, Camille Nada, Louise Leclerc, Paul Pinault, Paul Lanus, Joachim Taïb, et évidemment François Ilias Gaboret et Antoine Gilbert. Merci à tous, bonne soirée.